RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui sur l'île anglo-normande de Guernesey, à la maison de Victor Hugo. C'est là que le grand écrivain français a vécu en exil de 1856 à 1870. Devenu un musée, ce lieu emblématique fermera ses portes à l'automne pour 2 ans de travaux. Alors avant la restauration, visite sur place en compagnie entre autres de l'arrière-arrière-petit-fils de l'auteur, Jean-Baptiste Hugo, un admirateur de cette maison entièrement décorée et aménagé par son aïeul. Guernesey, visite de la maison de Victor Hugo. Reportage signé Catherine Fruchon-Toussaint.
Ladies and gentlemen, we will shortly be arriving alongside in Jersey. All foot passengers, please remain seated and wait further announcement regarding your disembarkation.
Welcome to Guernesey. C'est là, en effet, sur cette île anglo-normande, située dans la Manche, à plus de 400 km à vol d'oiseau de Paris, que Victor Hugo a trouvé refuge pendant 15 ans. Le géant des lettres françaises, romancier, poète, dramaturge et homme politique, a dû en effet quitter la France en 1851 et après quelques étapes, s'est installé sur ce rocher magnifique. Rappel des circonstances de son arrivée avec Odile Blanchette, administrateur de Hauteville House, la maison de Victor Hugo.
Après s'être opposé au pouvoir de Napoléon III, Victor Hugo a fait partie donc d'une opposition assez féroce à son égard et a décidé donc de quitter Paris avant d'être banni. Il part pour Bruxelles où il va passer quelques mois avant d'être banni à nouveau après avoir écrit Histoire d'un crime et Napoléon le Petit. Il arrive à Jersey où il y a déjà toute une communauté de proscrits auquel il s'associe et qui lui vaudra aussi une deuxième expulsion. Et Victor Hugo arrivera en 1856 à Guernesey, où là, en devenant landlord, c'est-à-dire propriétaire d'une maison, il évitera toute prochaine expulsion.
Propriétaire à 54 ans, donc pour la première fois de sa vie, Victor Hugo achète cette magnifique bâtisse sur les hauteurs de Saint-Pierre-Port, la capitale de l'île, grâce au succès foudroyant de son recueil de poésie, Les Contemplations, où il évoque la mémoire de sa fille Léopoldine qui s'est noyée. Avec sa femme, ses 2 fils et Adèle, son autre fille, il pose ses bagages au 38 de la rue Hauteville.
Je vous souhaite la bienvenue à Hauteville House, la maison d'exil de Victor Hugo à Guernesey, qui n'est pas seulement le lieu d'habitation de l'écrivain et de sa famille, mais c'est aussi une œuvre d'art qui a été réalisée par Victor Hugo, puisqu'il va imaginer beaucoup de décors et en réaliser une partie pour créer un lieu qui est vraiment à son image et qui se lit comme une de ses œuvres.
Oui, comme le dit Camille Metz, notre guide pour l'occasion, cette maison est unique, il est vrai, car là, face à la mer, Victor Hugo, très inspiré, décide de transformer cet endroit en y ajoutant des pièces extérieures. La maison s'agrandit avec un jardin d'hiver sur 2 étages, ainsi qu'une verrière sur le toit. Et pour l'intérieur, il fait montre d'une imagination débordante pour décorer chaque espace selon ses goûts. Une merveille pour son arrière-arrière-petit-fils, Jean-Baptiste Hugo.
La maison, c'est une œuvre d'art, c'est un poème en 3 étages. Il y a une telle richesse et puis il y a une telle force créatrice que quand on entre dans la maison, on sent cette liberté de l'esprit créatif. Il a fait exploser toutes les structures, comme il a fait exploser les structures de la versification. Ici, il a fait exploser les structures de la décoration. Et donc, c'est un message de liberté, c'est un peu prenez votre vol, quoi.
Créatif, Victor Hugo, pendant 3 ans, se laisse aller aux fantaisies les plus inattendues et du sol au plafond joue avec le tissu, le bois, la céramique, comme dans le vestibule par exemple, où l'on est accueilli par un curieux couloir. Camille Metz.
Alors c'est un couloir qu'on appelle le couloir aux faïences et qui en fait était autrefois l'accès au jardin qui se trouve donc derrière la maison sur la façade sud. Et c'est un couloir qui a été entièrement décoré par Victor Hugo avec des assiettes, des faïences, des tasses qui sont présentées sur les murs mais également au plafond, ce qui fait évidemment l'originalité. Et c'est vrai qu'ici Hugo va jouer avec la lumière, parce que c'est quelque chose de très important dans la maison, ce passage de l'obscurité au rez-de-chaussée à la lumière au dernier étage. Et il va donc mélanger des faïences, des porcelaines d'origine asiatique, des faïences françaises, donc avec des couleurs, des formes différentes pour vraiment créer un jeu de lumière particulier dans cet espace.
La lumière est en effet le mot-clé de Hartwell House, car ce qui frappe le visiteur, c'est l'entrée très sombre, alors qu'au fur et à mesure de la montée des étages, jaillit la clarté. Pour Jean-Baptiste Hugo, c'est le reflet de la pensée de son aïeul.
La maison, c'est une matérialisation, donc en trois dimensions, de concepts philosophiques qu'on trouve dans son œuvre. C'est la progression de la conscience des ténèbres à la lumière. Donc quand on entre dans le hall d'entrée, c'est sombre, c'est la nuit. Et puis il y a la cage d'escalier, et la lumière qui descend, et on monte vers la lumière. Et il a fait un travail d'architecte extraordinaire sur le toit, où il a entièrement ouvert le toit. Et là où nous sommes maintenant, à cette verrière où il écrivait, et c'est là où donc c'est le contact avec l'infini. Enfin, je veux dire, il est vraiment là, on est dématérialisé.
Quatre niveaux donc. Après un rez-de-chaussée composé d'une pièce pour manger, un billard, un salon des tapisseries et une partie du jardin d'hiver, le premier étage distribue des chambres, aujourd'hui transformées, mais surtout deux salons en regard, un entièrement rouge et l'autre totalement bleu, étonnant. Marie Hugo, arrière-arrière-petite-fille d'Hugo et sœur de Jean-Baptiste.
Quand on entre, c'est comme d'entrer dans un coffret à bijoux. On est absolument émerveillé. Je pense qu'on ne connaît pas l'homme si on n'a pas vu cette maison.
Hartwell House révèle en effet un Victor Hugo moins connu, un homme qui aimait travailler de ses mains, décorateur dans l'âme. Il s'est aussi physiquement investi avec, par exemple, au deuxième étage, une pièce impressionnante, entièrement boisée, dite la galerie de chêne. Jean-Baptiste Hugo.
Le travail du bois est extraordinaire. Quand il est arrivé ici, donc, il est parti à ce qu'il appelait la chasse aux coffres. Il a acheté 70 coffres de différentes époques. Donc il y avait trois ébénistes et ils ont donc démantelé les coffres. Et comme Victor Hugo, il avait fait quand même beaucoup de dessins dessinés, alors ils faisaient des croquis et ils ont reconstitué, ils ont créé des meubles extraordinaires, des dessus de cheminée, comme des cathédrales en fait. Ouais.
Et sa femme, elle a participé un peu ?
Elle se plaignait que les choses prenaient trop de temps. Je crois qu'ils ont été 2 ans sans la salle à manger. Et puis ensuite, Victor Hugo chinait, il achetait beaucoup de choses pour leur valeur visuelle ou artistique. Et elle se plaignait qu'il achetait que des pots cassés, ce qui coûtait trop cher et qui n'avait pas de valeur parce qu'ils étaient cassés.
Architecture, décoration, Victor Hugo a aussi laissé son empreinte dans 1001 recoins de la maison, où il a inscrit, dans le bois, dans les murs et autres supports, quelques mots, exemple ici avec Camille Metz.
Alors on retrouve là une inscription très importante dans la maison, « Exilium vita est », « La vie est un exil » ou « L'exil, c'est la vie ». Et c'est vrai qu'Hugo va alors écrire énormément de choses, beaucoup en latin, en français, des maximes qui lui servent à exprimer ses grandes idées politiques. Et c'est vrai que ça reste une maison d'exil, Hartwell House, et quand il arrive ici, il n'a aucune idée de s'il va pouvoir rentrer un jour en France. Donc il pense vraiment que sa vie sera désormais un exil et il pense qu'il va mourir ici. Après, c'est intéressant aussi parce qu'en même temps, cette période d'exil qui aurait pu être vécue un peu comme une mort, c'est au contraire une période dans laquelle il va être extrêmement créatif. Il écrit beaucoup, il réalise tous les décors de cette maison. Donc c'est aussi une période de, peut-être pas complètement de renaissance, mais en tout cas une période très productive et vraiment très, très créatrice.
Oui, Victor Hugo n'arrête jamais. C'est à Guernesey qu'il finit son chef-d'œuvre Les Misérables en 1862. Et c'est là surtout que l'île lui inspire un grand livre, Les Travailleurs de la mer en 1866. Il faut dire qu'il écrit face à la Manche, debout, au sommet de la maison, au troisième étage, dans cet espace entièrement vitré, nommé le Lookout, qu'on peut traduire en français par le regard tourné vers l'extérieur, une vue particulièrement stimulante. Jean-Baptiste Hugo.
Totalement. On peut dire que la mer a été une muse extraordinaire. La Providence a voulu qu'il vienne ici à Guernesey, donc sur ce rocher, et entre les vagues, entre les flots, l'océan, et puis les nuages et le ciel. Quoi. Il était vraiment au milieu des éléments de la nature, toute la force de la nature. Il y voyait aussi un reflet de sa propre personnalité. Quoi. Enfin, tout le tourment, l'ouragan, la tempête. Quoi.
Victor Hugo est à ce point comblé à ce dernier étage que non seulement il y écrit, mais il y dort aussi. Car à côté du Lookout, il s'est installé dans une toute petite chambre de bonne où se trouve un lit à une place. C'est sans doute le plus petit espace de la maison, le plus monacal et le moins ostentatoire au regard de la décoration du reste de la maison. Mais cela ne surprend pas Marie-Hugo.
Moi, si je devais choisir une chambre, je choisirais la sienne parce qu'elle est, elle surplombe la mer et allongée là, on ne voit que la mer et les mouettes. C'est magnifique.
Solitaire, Victor Hugo n'en était pas moins un homme très généreux envers les autres, à l'image d'une tradition qu'il a instaurée sur l'île, le dîner des enfants pauvres. Odile Blanchette, l'administratrice de Hauteville House.
Effectivement, dès qu'il a fini un petit peu la décoration de la maison, qu'il est très installé sur l'île, il décide d'organiser une fois par semaine pour les enfants pauvres de l'île un dîner qui sera servi par lui et sa famille dans le jardin d'Hauteville House pendant l'été et dans les pièces de la maison pendant l'hiver. Il ira jusqu'à leur organiser des arbres de Noël aussi pour Noël, où il offrira des vêtements, des chaussures et des cadeaux pour chacun. Mais il trouvait que c'était très important, puisque c'est toujours dans cette démarche de protection de l'enfance, d'organiser ces dîners hebdomadaires qui, au départ, regroupaient 12 enfants et qui finiront à la fin de l'exil à une quarantaine d'enfants invités chaque semaine. Ça dépassait la charité, c'est-à-dire que c'était vraiment dans le cadre de l'éducation de l'enfance et de la protection. Ils se rendaient compte, par exemple, qu'en nourrissant bien des enfants, il y avait moins de morts infantiles et moins de maladies aussi parmi les enfants qu'il accueillait. Donc c'était vraiment très très important pour lui.
Une conscience sociale et une conscience politique qui ne l'ont jamais quitté. Et de fait, quand il n'est plus en disgrâce, Victor Hugo revient en France en 1870, rejoindre l'Assemblée où il est élu député. Jusqu'à sa mort, en 1885, il gardera sa maison d'exil et y reviendra autant que possible. Mais faute de pouvoir l'entretenir, en 1927, ses descendants l'offrent à la ville de Paris et devient ainsi le seul musée français hors des frontières. Très fréquenté d'ailleurs, lors de sa période d'ouverture d'avril à septembre, Camille Metz.
Alors on reçoit environ 20 000 visiteurs chaque année et c'est vrai qu'il y a alors en majorité des visiteurs français francophones, même si ces dernières années on remarque qu'on a de plus en plus de visiteurs anglophones. On arrive presque au 50-50 alors parce qu'il y a des gens qui viennent d'Angleterre, beaucoup qui connaissent Guernesey, qui viennent à Guernesey pour leurs vacances et qui découvrent Hauteville House à cette occasion. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui viennent avec les bateaux de croisière, qui voyagent beaucoup et qui s'arrêtent beaucoup à Guernesey pendant la haute saison. Et donc là, on a des gens qui viennent des États-Unis, de Chine, du Japon, vraiment du monde entier.
Le monde entier qui pourtant va devoir patienter pendant près de 2 ans, puisqu'à l'automne, Hauteville House va devoir fermer pour des travaux bien nécessaires, comme le confirme Marie-Hugo.
Oui, c'était assez évident. Hein. Ici, dans le lookout, il pleut. J'ai été ici pendant des tempêtes. Et il faut vite mettre des seaux partout. Les fenêtres fuient. Il y a vraiment besoin de restauration.
Avant de tourner la page de la restauration, Marie-Hugo, qui est peintre, a donc voulu, avec son frère Jean-Baptiste, photographe, et sa fille Laura, consacrer un très bel ouvrage à cette maison familiale qui, sous le titre Hauteville House, Victor Hugo, décorateur aux éditions Paris Musée, immortalise la présence de leur ancêtre sur place dans un souhait de partage avec le plus grand nombre. Marie-Hugo.
Pour moi, c'est surtout transmettre. C'est une maison, donc il y a des visites, mais évidemment, il ne peut pas y en avoir beaucoup. C'est loin, c'est difficile, et pour moi, c'était très important de pouvoir le montrer, que le plus de gens possible puissent le voir et en bénéficier comme une source de création.
Une source de création qu'il faut en tout cas entretenir. Et c'est pourquoi une grande restauration du bâtiment est prévue prochainement, avec des chantiers prioritaires, comme l'explique Gérard Audinet, directeur des deux maisons Victor Hugo, celle de Paris, place des Vosges, et celle de Guernesey.
Alors, il y a beaucoup de choses à faire dans cette maison, mais il y a surtout trois priorités qui sont principalement donc cette serre à 2 étages, atelier et jardin d'hiver qu'il a ajouté sur la façade sur jardin, et le lookout. Ce sont des lieux qui posent des problèmes d'infiltration depuis l'époque de Victor Hugo, pour des raisons très techniques, alors qu'a bien identifié notre architecte du patrimoine, Riccardo Giordano, qui va mener les travaux, et aussi sur les fenêtres de la façade jardin. La priorité, c'est de mettre la maison vraiment hors d'eau, enfin. Ça, c'est essentiel parce que ça bloquait certaines restaurations et restitutions de décors. Vous n'avez pas changé les tapisseries s'il continuait à pleuvoir à l'intérieur. Voilà, donc ce qui fait qu'on peut à la suite faire des restaurations de décors et des restitutions de décors, puisqu'il est important de retrouver l'aspect visuel créé et voulu par Victor Hugo.
Une restitution dont le coût s'élève à 2 millions d'euros. La ville de Paris prendra en charge une partie des travaux, mais un appel aux dons a été officiellement lancé pour les grands mécènes, ainsi qu'une opération participative pour tous. Gérard Audinet.
Aussi, on a lancé avec la Fondation du patrimoine, donc par Internet, sur leur site, une campagne de crowdfunding pour un objectif plus limité de 100 000 euros qui concerne donc principalement des restaurations d'objets immobiliers et des restitutions de décors, qui permet à tous, et d'ailleurs c'est ce qui me touche beaucoup dans cette campagne de crowdfunding, c'est que ce sont beaucoup de petits dons, très modestes, mais donc de gens, pas très riches, mais passionnés et amoureux de Victor Hugo, qui ont envie de s'associer à cette aventure, faire en sorte qu'il y ait un petit peu d'eux-mêmes dans cette maison. Et ça, je trouve que c'est très, très, très émouvant. En tout cas, nous, on y est très, très sensible parce que voilà, ça témoigne que Victor Hugo est encore présent dans notre identité, dans notre mémoire et dans nos intérêts.
Intérêt partagé des deux côtés de la Manche, comme en témoigne l'attachement des Anglais, à commencer par l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France, Lord Lelwyn.
Je pense que cette résidence, l'ancienne résidence de Victor Hugo, c'est un symbole des liens entre nos deux pays, de notre histoire partagée. C'était sa résidence quand il était là en tant qu'exil. Il a fait des œuvres magnifiques pendant qu'il était là. Et je pense que c'est un symbole de nos liens en tant que voisins. Et je pense que ça, c'est important.
Même discours pour Margaret Jones, récemment installée à Guernesey et qui n'a pas hésité à rejoindre l'association anglaise qui honore la mémoire de Victor Hugo sur l'île.
Oui, je me suis inscrite il y a 2 ans lorsque j'ai entendu parler qu'on voulait faire quelque chose pour applaudir Victor Hugo, parce qu'il fallait montrer au monde qu'il est très important, il est le plus important, à mon avis, écrivain de la France et peut-être du monde. Alors, comme je m'intéressais beaucoup à la littérature française, j'ai visité Hauteville House, j'ai admiré la belle vue. Hauteville House, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une poésie, c'est un roman, c'est une peinture, c'est tout ce qu'il est bien dans les romans de ce siècle.
Un soutien de la part des habitants de Guernesey, dont se rend compte tous les jours Odile Blanchette, l'administratrice de Hauteville House.
La maison attire beaucoup puisque c'est là où Victor Hugo a fini d'écrire Les Misérables et que pour les anglophones, la comédie musicale est si importante. Ils ont une première approche de Victor Hugo par ce biais. Sur l'île, c'est vraiment une fierté d'avoir cette maison de Victor Hugo où l'auteur a fini d'écrire ce roman qui est mondialement célèbre.
La comédie musicale Les Misérables est en effet à ce point célèbre qu'on peut par hasard croiser à Saint-Pierre-Port une troupe amateur en costume qui chante un extrait du spectacle sous la statue de Victor Hugo offerte par la France à la ville pour la remercier de son hospitalité envers le grand homme. Hauteville House, la maison d'exil de Victor Hugo à Guernesey, dernière visite avant fermeture pour travaux, un grand reportage de Catherine Fruchon-Toussaint avec l'aide précieuse de Valérie Kugler et Agnès Perry en coulisses, réalisation Sandrine Straram.